On a déjà vidé les poches. Ah, c'est bien. Je m'appelle Patrick, j'ai étudié à la HET, alors pas en même temps que Johan, un petit peu, entre autres. En 2022, j'ai eu Michel comme professeur, entre autres. Et puis je suis aussi bibliothécaire à Startup, il y a aussi Rolf qui a investi, donc voilà, deux, trois personnes aussi que je connais. Donc voilà, j'ai fait une formation théologique, j'étais aussi pendant plusieurs années pasteur dans la région de Lausanne. Et ce matin, on m'a demandé de parler évidemment sur une thématique en lien avec Noël, avec le temps de l'Avent. Et je me disais, mais quelle belle occasion c'est Noël de pouvoir parler du Christ, parler de ce que Jésus a fait, de qui est Jésus. Avant cela, je vous propose de prier pour nous remettre aussi devant le Seigneur, de pouvoir nous concentrer sur l'essentiel. Seigneur, merci parce que, une fois encore, nous pouvons venir vers toi, nous pouvons nous tenir devant toi. Et c'est vrai, Seigneur, ce temps de Noël, ce temps de célébration, ce temps de réjouissance, c'est aussi parfois un temps de stress, un temps difficile avec les jours qui sont plus courts, peut-être le froid et autres, Seigneur. Que nous le verrons ce matin, tu es cette lumière du monde, Seigneur. Et que ce matin encore, tu puisses briller dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. J'ai intitulé mon message « Préparons le chemin du Seigneur ». Là, on peut se dire, mais Jésus est déjà venu, pourquoi préparer sa venue? On le verra. C'est intéressant, si nous regardons dans l'Ancien Testament, nous avons beaucoup de textes qui annonçaient la venue de Jésus, nous en avons vu ce matin. Mais si nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus viendra à nouveau. Il est aussi question de sa deuxième venue. D'une certaine manière, ce temps de l'Avent, c'est un temps de souvenir, mais c'est aussi un temps prophétique, c'est aussi un temps eschatologique, où nous nous préparons au retour de Jésus. Et c'est aussi pour ça que j'ai intitulé ce message « Préparons le chemin du Seigneur ». Je vais aborder un personnage biblique que j'aime beaucoup. On fait souvent allusion à Pierre ou à Paul, qui sont ces grands apôtres qui ont suivi le Christ, qui sont ces piliers de l'Église. Pierre, cette figure de proue. Et pourtant, il y a un prophète qui est dans l'Ancien Testament et qui parle beaucoup de Jésus. Lequel est-il ?
Jean-Baptiste.
Amen, 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 exactement. Je pensais que les gens allaient dire, ah ben non, c'est Ésaïe, parce qu'Ésaïe a beaucoup parlé de Jésus, mais Jean-Baptiste a énormément parlé de Jésus. Et Jean-Baptiste est ce personnage aussi du temps de l'Avent, celui qui prépare le chemin du Seigneur, on voit aussi dans ce texte. Alors je vais un petit peu parler de Jean-Baptiste, mais c'est une prédication centrée sur Christ, qu'on soit d'accord. Et pourtant, Jean-Baptiste était un homme qui n'avait pas notre connaissance, il n'avait pas les écrits de Pierre, de Paul, et pourtant, il annonçait la venue de Jésus. J'aime ce texte de Marc. Comment Marc commence son évangile? Bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et là, je marque la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et tout de suite après, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. Celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Ainsi, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est directement après, on parle de Jean-Baptiste. Ça me surprend. Imaginez, Marc écrit son évangile, la biographie du Christ, et au verset 2, tout de suite, il parle de Jean-Baptiste. Et si vous regardez l'évangile de Luc, on a la même chose. Luc 1, on a une très longue description de la naissance de Jean-Baptiste, qui sera appelé prophète du Très-Haut, etc., etc., qui préparera le chemin. Après, je continue encore avec l'évangile de Jean aussi. Dans l'évangile de Jean, on a au commencement était la parole était Dieu, etc. Tout fut créé par elle. D'un coup, dès le verset 6, on parle de Jean-Baptiste. Ainsi, Jean-Baptiste est vraiment ce personnage par excellence du temps de l'Avent qui prépare le chemin du Seigneur. On va laisser un petit peu Jean-Baptiste de côté. On y reviendra tout à la fin du message. C'est pour ça que je voulais déjà présenter le personnage. Mais on va quand même revenir à Jésus, le héros de l'histoire. Noël, c'est quand même la naissance du Christ. Je ne vais pas directement aborder toute la thématique de la crèche de Jésus, de l'incarnation. C'est quand même un mystère. Le mystère de l'incarnation. Comment Dieu, le Créateur, on le voit dans l'évangile de Jean, dans le prologue, tout fut créé par elle. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et comment le Créateur devient créature. L'incarnation, c'est le Créateur qui devient créature. C'est Dieu qui vient, c'est Dieu qui marche dans sa création. Il vient, Jésus revêt notre humanité, Jésus est devenu pleinement homme pour pouvoir nous sauver. Et c'est toute la beauté de l'incarnation, Dieu qui se fait homme. Imaginez ce mystère. Ce n'est pas les hommes qui vont vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient parmi nous. On l'a chanté dans le cantique, Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu proche de nous. Et j'en ai, c'est ça la magie de Noël, si on peut utiliser ce terme de magie. Mais c'est Dieu qui vient, c'est Dieu qui s'incarne à un moment donné de l'histoire pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Et ce temps de l'Avent, c'est aussi un temps de mémoire. Nous avons trois bougies sur quatre allumées. La quatrième sera dimanche prochain, dimanche 24. Et ce temps de l'Avent, on pourrait aussi le comparer d'une certaine manière au temps de Carême qui précède Pâques. Et dès l'histoire de l'Église, le temps de l'Avent était un temps important. On se préparait à la venue de Jésus, de la même manière que davantage les catholiques que les évangéliques se préparent avec carême à Pâques, avec le temps de carême. Et le temps de l'Avent, c'est aussi un temps dans l'année liturgique particulier. Nous nous préparons à la venue du Sauveur. Mais alors, pourquoi fêter Noël? De cette manière, on peut se poser la question, pourquoi alors Jésus est venu sur Terre? Si on revient dans la Bible, on voit qu'il y a un temps de silence. Les prophètes se sont tus. Malachie, le dernier prophète, est mort. Il y a eu 400 ans de silence. L'Empire romain, l'émergence de l'Empire romain, des temps difficiles. Israël, le peuple de Dieu, la terre de Dieu, sous emprise ennemie, sous domination étrangère. Un temps difficile, un temps de silence. Dieu se tait. Et d'un coup, Dieu visite son peuple. Un sauveur est né, un sauveur ressuscité. Et nous le voyons dans ce beau texte de Luc 2, verset 10. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » Un sauveur vous est né aujourd'hui de la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et ce texte, pour moi, est central. C'est une annonce qui produit une très grande joie. La joie de Noël. Pourquoi? Parce qu'un sauveur est né. Le peuple avait besoin d'un sauveur, il avait besoin d'un libérateur, de quelqu'un qui venait les libérer. L'attente du Messie, qui viendrait établir le royaume de Dieu. Le Seigneur qui vient, Dieu qui visite son peuple. Et toute cette thématique du sauveur est centrale. C'est la première partie de mon message. Et si nous prenons les cantiques de Noël, voici Noël, il est question du sauveur. Que nous prenons les anges de nos compagnes, on voit aussi toute cette thématique du sauveur. Un sauveur vous est né. Quelqu'un qui vient vous sauver des conséquences du péché, qui vient vous sauver de l'esclavage. Et un peu plus loin, Jean-Baptiste ira même encore plus loin. Il dira, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Aujourd'hui, on lit ce texte avec 2000 ans d'histoire de l'Église derrière nous. Et quand Jean-Baptiste voit Jésus, et il voit en Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il n'avait pas les écrits de Paul, de Pierre, toute la théologie, l'épître aux Romains, etc. Il y avait déjà cette révélation de Dieu que Jésus était cet agneau de Dieu, cet agneau que Dieu a pourvu pour sauver le monde, pour ôter le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu, ça semble bizarre. On voit dans tout l'Ancien Testament les sacrifices, l'agneau. On a lu aussi Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance. Sur lui, il a pris nos meurtrissures, toute cette thématique aussi de l'expiation, du pardon des péchés. D'une certaine manière, Jean-Baptiste synthétise toute cette révélation de l'Ancien Testament en disant que Jésus est cet agneau de Dieu que Dieu a pourvu pour enlever le péché du monde, ce qui sépare l'homme de Dieu. Et c'est central dans nos vies, dans la Bible. Je vais vous faire un petit quiz. Qui peut me citer Jean 3,16? Amen. Amen. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont même un autocollant Jean 3,16 derrière leur voiture. Amen. Maintenant, on va corser. Si c'est trop facile. On a Jean 3,16, mais qui a Jean 3,17? Le verset d'après. Ah là 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 là. Est-ce que quelqu'un l'a comme ça spontanément en tête? Je vous le donne. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Et des fois, je me pose la question, entre Jean 3,16 et Jean 3,17, quel est mon verset préféré entre les deux? Je vais dire 50-50. Mais ce Jean 3,17 n'est pas moins important que ce Jean 3,16. C'est l'espérance. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le but de Dieu n'est pas la condamnation, mais c'est la rédemption à travers Jésus. Et Dieu, dans la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, a envoyé le Fils pour que le monde soit sauvé. Jésus est ce sauveur du monde qui est venu dans le monde. Et c'est le concentré de l'œuvre de la rédemption. Jésus est le sauveur de l'humanité, afin que quiconque croit en lui. Non seulement nous, mais tous les gens du dehors. Il est notre parfait rédempteur. Et là, je me pose la question, mais qui est Jésus pour moi ? Est-ce que je vois aussi comme mon sauveur? Est-ce que j'ai besoin d'être sauvé? Est-ce que quand je suis honnête avec moi-même, est-ce que je me dis, oui, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'un sauveur? Et comme dans ce texte de Luc 2:12, c'est une nouvelle qui produira une très grande joie. Dieu a pourvu en Christ le sauveur dont nous avions besoin. J'ai l'impression qu'on est tellement habitué que Dieu nous a pardonné nos péchés que comme si c'était une évidence. Mais c'est un privilège. Jésus a tout accompli pour nous. Et une deuxième question qu'on peut se poser, mais dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai besoin que Jésus intervienne? Un sauveur est là pour sauver. On n'a pas besoin d'un sauveur, on n'a pas besoin de Jésus. Jésus lui-même le dit, ce ne sont pas les malades, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Est-ce qu'on se reconnaît malade? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu chercher et sauver. Regardez les évangiles. Jésus était en mission pour sauver les gens perdus. Il est ce sauveur du monde. Tout est accompli à la croix. C'est le message de Pâques. Je ne l'aborderai pas ce matin. Mais ultimement, Jésus est né, s'est incarné à Noël pour mourir. Et c'est toute l'œuvre de la rédemption. Et c'est beau, c'est magnifique de réaliser que Dieu a tout accompli par amour pour nous. Ainsi, si on fait un résumé de cette première partie, Jésus est venu, il s'est incarné dans notre monde pour nous sauver. Qui a vu Star Wars? Ah! Et là, il y a cet épisode où il y a un nouvel espoir. Je ne vais pas vous spoiler le film. Mais il y a un nouvel espoir. A new hope. Ta-da, ça, c'est le slogan. Et d'une certaine manière, Jésus est ce nouvel espoir. Cet espoir dans ce monde de ténèbres. Et on le voit souvent dans ce texte d'Ésaïe que nous prenons souvent dans ces temps de Noël. Vous avez peut-être pris ces dernières semaines. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui marchait dans la nuit a vu une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays d'obscurité, une lumière se met à briller. Il y avait ce temps de nuit, ce temps difficile, d'obscurité. Mais le peuple avait cette espérance, une nouvelle lumière venait, cette lumière venait. Il y avait un nouvel espoir. Une lumière se met à briller, comme un lumignon qu'on allume, un feu qui démarre. Il y avait une espérance. Tout n'était pas perdu. Alors, George Lucas, dans Star Wars, n'a rien inventé. Mais il y a cet espoir. Jésus a cet espoir, l'espoir que le peuple attendait. Cette lumière qui vient dans le monde, Jésus, lumière du monde. Et les Juifs ont fêté dernièrement la fête de Hanouka, qui s'est terminée vendredi 15, avec toute la thématique aussi de la lumière. On pourrait faire des liens entre la fête de Hanouka et Noël, je ne le ferai pas ce matin, mais c'est aussi intéressant de voir cette importance de la lumière. Jésus, lumière du monde. Jésus, sauveur du monde, première partie. Mais Jésus aussi, lumière du monde. J'aime cette photo. Parce que d'une certaine manière, Jésus n'est pas le soleil, n'est pas juste un soleil qu'on voit, c'est la lumière. La Bible ne dit jamais que Jésus est le soleil ou que Dieu est le soleil, vous voyez, comme on aurait une vision de certaines religions, mais Jésus est la lumière du monde. D'une certaine manière, même là, on ne voit pas le soleil, Des fois, on ne voit pas le soleil. Ces derniers jours, avec la pluie, on ne voyait pas le soleil. Et pourtant, il y avait la lumière. Vous voyez, il y a une différence. C'est Jésus, et la lumière du monde. Des fois, la lumière, on ne la voit pas, comme cachée derrière des nuages, mais la lumière est là. Et Jésus est cette lumière du monde, cette lumière qui vient dans les ténèbres. Et si on reprend rapidement encore Star Wars, où il y a un peu le côté, la force positive, négative et autres. Mais la lumière est la même chose. La lumière vient dans les ténèbres. Il y a aussi une tension entre la lumière et les ténèbres. Cette lumière qui vient de le monde, qui éclaire tout homme. Jésus, elle a cette lumière, mais c'est une lumière cachée. Si nous regardons dans les évangiles, nous voyons que Jésus est venu, mais pas tout le monde est venu à lui. Pas tout le monde a couru après lui. Certains l'ont suivi, mais pas tous. Et pourtant, Jésus le dit dans trois textes essentiels. En Jean 8, 12, ce texte connu. « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est un texte fort. J'ai même envie de dire que c'est un texte quelque peu présomptueux. On disait que Louis XIV était le roi soleil. Mais d'une certaine manière, Jésus est plus loin que le soleil, il est la lumière. Non, mais vous vous rendez compte, quelqu'un qui dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » C'est un texte fort. Ce deuxième texte dans l'évangile de Jean aussi, « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jésus avait une vision très claire de qui il était. Et encore une troisième fois dans l'évangile de Jean, c'est pour être la lumière que je suis venu de le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et là, on a déjà une tension. Soit on vient à la lumière, soit on ne fait rien et on reste dans les ténèbres. Jésus ne dit pas soit on va à la lumière, soit on va aux ténèbres. Non. Les gens sont dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres, mais je suis la lumière du monde. Et quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et Jésus a cet espoir dans ce monde de ténèbres. Ainsi, Jésus a cet espoir dans ce monde rempli de ténèbres, de souffrances, de guerres. Regardons autour de nous. On ne peut pas dire que la situation est lumineuse. Et pourtant, il y a un problème. Des fois, je me pose la question, mais alors pourquoi pas tout le monde vient vers Jésus? Vous avez déjà posé la question? Jésus est la lumière du monde. Jésus est l'espérance de nos vies. Vous dites, mais pourquoi les gens ne vont pas à Jésus? Pourquoi, dans ce temps de l'Avent, si on veut mettre une crèche dans une école, dans un hôpital, dans un lieu public, on nous dit non. Il n'y a rien d'offensant. Ce n'est pas un bébé qui... Non, mais vous voyez, il n'y a pas visuellement quelque chose de scandaleux. Pourquoi on dit maintenant les fêtes de fin d'année? Est-ce que c'est une manière d'éviter Noël? Je ne sais pas. Il faut aussi se poser la question, pourquoi il y a un peu cette opposition par rapport à Jésus, par rapport à ce sauveur du monde, par rapport à cette lumière qui vient dans les ténèbres? Et de nouveau, dans l'évangile de Jean, nous avons un élément de réponse. Voici, donc il parle du monde, voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde. Ça, on l'a vu. Mais les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Et j'aime ce texte. On a Jean 3,16, Jean 3,17 qu'on a vu. Et là, dans le même chapitre, Jean 3, 19, donc ça fait 16, 17, 18, 19, donc voyons, je ne saute pas du coq à l'âne. Jean 3, 16, le sauveur. Enfin, Jésus a envoyé son fils. Jean 17, Dieu a envoyé son fils pour sauver le monde. Et Jean 3, 19, on parle déjà de condamnation. Et la Bible n'est pas utopique. Ce n'est pas un conte de fées, on croit que tout le monde va venir et puis c'est le happy end. Jésus était conscient que sa venue dans le monde n'allait pas faire que des heureux. Et regardez son ministère, Jésus a eu énormément d'opposition. Pourtant, il était le Fils de Dieu, il était Dieu en personne qui vient parmi les siens. J'ai besoin d'un volontaire parmi les trois. Il y en a un qui est d'accord. Toi, tu es d'accord? C'est très simple. Je ne vais pas le faire avec moi-même, parce qu'après, j'aurai de la peine à lire mes notes. C'est pour ça que je prends quelqu'un. Mais on va prendre cette lumière. Admettons qu'il n'y ait pas de lumière. Si j'allume la lumière, attendez, hop, on voit clair. On est d'accord? Donc la lumière, elle fait quoi? Elle éclaire. Mais cette même lumière, si je la mets dans les yeux, elle éblouit. Elle est à l'aveugle. On est d'accord, je peux regarder. Ah, maintenant, j'ai un rond blanc dans les yeux. Merci beaucoup. Voilà, je l'ai fait avec moi-même. Mais d'une certaine manière, la lumière a deux fonctions. Elle est claire ou elle est aveugle. On est dans les ténèbres, on allume une lumière, on voit plus clair. Vous êtes en forêt, c'est pratique d'avoir une lumière. Et si vous regardez dans les yeux, à un moment donné, vous êtes aveuglé. Et Jésus a cette double fonction. En venant de le monde, la lumière éclaire tout homme. Et il y a ceux qui ont été éclairés, qui étaient dans leurs ténèbres et qui sont venus à la lumière. Et il y a les gens qui ont été aveuglés par Jésus. Et regardez les pharisiens, regardez certaines personnes. Ils ont été aveuglés. Ils ont été confrontés, mais ils ne sont pas venus à la lumière. Et Jésus a ce double aspect. Et le message de Noël, c'est aussi la venue de Dieu sur terre. Qui amène les gens à la lumière, mais aussi qui est aveugle. Et d'une certaine manière, qui condamne aussi les gens par leur aveuglement, parce qu'ils choisissent délibérément, enfin d'une certaine manière, ils choisissent de rester dans les ténèbres. Et même dans le verset 5 de l'Évangile des gens, dès le début, on a la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée, ne l'ont pas saisie. Lorsque le terme étouffée, c'est négatif, comme on veut étouffer quelque chose, on veut le saisir, le prendre. Ou ne l'ont pas saisi, ne l'ont pas compris, on peut le comprendre de différentes manières. Mais dès le début, même Jean dans son évangile annonce la couleur. La lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue, selon les versions. Et pour moi, d'une certaine manière, je veux dire, c'est le drame de Noël, drame qu'on se comprenne au sens noble du terme. Noël, ce temps de réjouissance, d'un sauveur qui vient, un sauveur qui est né pour le monde entier, pour sauver ceux qui étaient perdus, pour chercher à sauver ceux qui étaient perdus. Certaines personnes ne sont pas venues à lui. Quand vous allez en forêt, vous soulevez une petite pierre, et il y a un animal qu'on appelle le cloporte. Vous savez, c'est cette petite bête toute pas belle. Exactement. Mais le cloporte est un animal lucifuge. C'est un animal qui fuit spontanément la lumière. J'aime cette définition. Un animal lucifuge, c'est un animal qui fuit spontanément la lumière, naturellement. Vous mettez la lumière, il part. Vous mettez une pierre, vous soulevez, gentiment, il part. Est-ce que de temps en temps, nous ne sommes pas aussi comme ça, où Jésus vient dans notre propre vie, vient dans nos ténèbres, et nous avons aussi ce choix? Est-ce que nous acceptons de venir à la lumière ou nous refusons de venir à la lumière? La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain en venant dans le monde. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. C'est le drame. L'évangile de Jean, de nouveau, dans les premiers versets. Jean commence son évangile de manière surprenante. La lumière est venue, mais les siens ne l'ont pas acceptée. C'est pas très vendeur. Et pourtant, c'est la vérité. Il y a cette espérance au verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfant de Dieu. Et je me pose la question. La lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Combien de fois dans ma propre vie, où Dieu met le point, le doigt sur des domaines difficiles de ma vie? Est-ce que je viens à la lumière? Ou est-ce que je fais comme une cloporte? Je pars. Je fuis. Spontanément à la lumière. Parce que je préfère rester dans mes ténèbres. Je préfère être aveuglé par la lumière que de venir à la lumière. Déjà dans notre propre vie. Jésus est le sauveur, mais avons-nous réellement besoin d'un sauveur? Et dans quel domaine de notre vie nous avons besoin que Jésus intervienne? Jésus est venu pour sauver des hommes, et c'est le but ultime de l'incarnation. Jésus est venu pour sauver des pécheurs tels que vous et moi. Et Jésus n'était pas naïf. Jésus savait que son ministère allait déranger. Jésus ne se faisait pas d'illusions. D'une certaine manière, en tant que chrétien, nous ne devons pas non plus nous faire d'illusions. Malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui va venir à Christ à travers nous. C'est aussi une réalité, malheureusement. Ça ne nous empêche pas de prier, de persévérer, de jeûner pour des enfants, des membres de nos familles, des voisins, des amis qui ne sont pas chrétiens. Il n'y a pas de fatalisme. Mais nous sommes appelés à être la lumière du monde. Ça, je l'ai abordé. Nous sommes maintenant cette lumière du monde. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Et c'est la troisième partie de mon message. Jésus, sauveur du monde, Jésus, lumière du monde. À un moment donné, Jésus n'est plus là. Et Jésus le dit dans l'évangile de Jean, aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et à un moment donné, si vous me permettez le jeu de mots, Jésus nous passe la torche, nous passe le flambeau et dit, maintenant, vous êtes la lumière du monde. Et c'est la fin de mon message. Je dis, mais nous sommes lumière du monde. Et de la même manière que Jésus n'était pas utopique, naïf quant à son ministère, que tout le monde allait l'accueillir, de la même manière, on a beau être lumière du monde, il n'y a pas tout le monde qui va venir à Jésus à travers nous. Il n'y a pas tout le monde qui va accepter Jésus. Ça semble un paradoxe, c'est un mystère pour moi. Mais notre rôle, c'est d'être la lumière. Comme un phare. Un phare, il est là et brille. Que les bateaux viennent ou pas, qu'ils décident de venir à travers la lumière d'un phare, ce n'est pas son problème. Nous devons resplendir de Christ par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Le monde doit voir Jésus à travers nous. En particulier dans ce temps de l'Avent, dans ce temps de Noël, dans cette période peut-être plus difficile pour les uns. Je vais revenir à Jean-Baptiste. De la même manière que Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur pour l'incarnation, il a préparé une route pour le Seigneur, aplani un sentier, annoncer celui qui devait venir, préparer le cœur du peuple à la venue de Jésus. De la même manière, nous devons aussi préparer son retour, être cette lumière, annoncer au monde que Jésus est venu, que Jésus viendra à nouveau. Et cette espérance aussi, on l'a dans le livre des Actes, ce même Jésus qui est monté au ciel reviendra de la même manière. Jésus revient. Quand, je ne sais pas. Mais Jésus revient. Et c'est l'assurance de l'Église, c'est l'espoir de l'Église. Oui, Jésus viendra à nouveau, comme il l'a annoncé, comme il l'a prédit. Et ce temps de l'Avent est un temps si prophétique, où de la même manière que nous nous souvenons que Jésus est venu il y a 2000 ans, nous nous rappelons que Jésus viendra à nouveau. Mais nous devons être prêts. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu es cette lumière du monde, tu es cette lumière qui est venue et qui éclaire tout homme. Toi, ce sauveur de l'humanité, toi dont le monde a désespérément besoin. Cela peut sembler paradoxal que le monde recherche beaucoup de choses hors de toi. Le monde cherche des fausses sécurités, mais toi, tu es cette véritable lumière qui est claire, qui nous permet de sortir des ténèbres. Et Seigneur, merci parce que tu es venu il y a 2000 ans. Tu t'es incarné pour nous sauver. C'est toute cette œuvre de la rédemption. Et Jésus, ma prière, c'est que tu puisses venir par ton esprit dans tous les domaines de nos vies qui ne sont pas à ta gloire, où la lumière ne brille pas. Jésus, je t'invite à venir maintenant nous montrer les domaines à régler de nos vies, Seigneur, afin que nous puissions à notre tour être ces lumières dans ce monde, que nous puissions briller, Seigneur, que le monde puisse te voir à travers nous, que le monde puisse être aussi confronté par notre vie, par notre style de vie, Seigneur. Que le monde puisse voir qu'il va à sa perte, que les gens puissent réaliser que leur manière de vie, de vivre, n'est pas juste. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à nous réjouir comme Jean-Baptiste de ta venue. Que nous puissions être actifs, centrés sur toi, Jésus. Que nos vies puissent être centrées sur toi. Seigneur, que cette bonne nouvelle de ton retour puisse nous réjouir, Seigneur. De la même manière que quand nous prenons la scène, ce que nous allons faire après, nous le faisons en souvenir de toi jusqu'à ton retour. Et la Sainte Seine est aussi un acte prophétique, un acte eschatologique que nous faisons jusqu'à ton retour, Seigneur. Aide-nous à demeurer fermes, à être fidèles envers toi, Seigneur. Que nous puissions œuvrer à l'avancement de ton royaume, Seigneur. Dans ces temps de Noël en particulier, Seigneur, que les fêtes de fin d'année, le stress, les échéances peut-être professionnelles et autres, Jésus, dans ce temps, nous pouvons tellement vite tourner en rond, courir partout et passer à côté de l'essentiel. Jésus, aide-nous à nous recentrer sur toi et à nous réjouir de ta présence et de ta venue, Seigneur. Amen.